Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous allons commencer notre émission par le journal suivi le commentaire. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. L'arbi suivante, magazine culturel, qui sera continué avec l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie insiste des négociations de COP23 génère des décisions concrètes. Surmonter les changements climatiques, l'Indonésie ne s'attend pas à l'aide étrangère. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, ou KKP, a approuvé le dynamitage des navires de pêche étrangères à Mimika. La création du Forum national de professeurs de recherche est enfin l'industrie nationale de l'exportation de produits en cuir veut poursuivre la Chine et le Vietnam. Voici le journal complet. Nur Maspri Patin, directeur général du contrôle du changement climatique, a affirmé l'intervention de la séance plénière d'ouverture du groupe de travail de la PA ad hoc sur la mise en œuvre de l'accord de Paris lors de la COP23 à Bonn en Allemagne mercredi. À cette occasion, Nur Maspri Patin a déclaré que l'Indonésie soutenait la déclaration de la coprésidence pour que la réunion des États membres de la COP23 aboutisse à une décision concrète. Il a déclaré que le processus devrait être inclusif, transparent et la mise en œuvre de l'accord doit être équitable. Selon lui, à cette occasion, les représentants des délégations ont également convenu de l'ordre du jour qui sera fait lors de la session de négociation par le biais d'un groupe informel. Pendant ce temps, les ONG rassemblées à Bonn ont également oublié le président américain Donald Trump qui veut que les États-Unis abandonnent l'accord de Paris. Maintenant, il se concentre sur l'insistance des pays qui veulent s'engager dans la gestion climatique de travailler plus dur et plus ambitieux. Même si Trump a déclaré la sortie de l'accord de Paris, la délégation américaine est restée à la COP23. Ils proviennent des parlements locaux, des villes, des organisations non gouvernementales et de diverses universités. Le militant écologiste Yayat Afianto espère que le gouvernement indonésien pourrait être plus indépendant face à la menace de la dégradation de l'environnement et au changement climatique. Yayat Afianto a demandé au gouvernement de ne plus espérer l'aide internationale, ce qui fait même le peuple indonésien gâté. C'est ce qu'a affirmé Yayat Afianto à la Radio République d'Indonésie à Jakarta mercredi. Bien que l'Indonésie espère encore obtenir une aide extérieure pour résoudre la destruction des forêts en Indonésie, il a suggéré qu'il pourrait être affecté à des activités de renforcement des capacités locales en vue de sensibiliser aux dangers de la dégradation de l'environnement. Plus tôt, en 2016, le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé une subvention de 22 millions de dollars à l'Indonésie pour renforcer la gestion des forêts tropicales et la réduction de la pauvreté parmi les communautés tributaires des forêts afin de réduire les dommages environnementaux. L'Indonésie est en paix avec la troisième plus grande zone de forêt tropicale dans le monde. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, ou KKP, a approuvé la proposition du procureur du district de Timika de faire exploser immédiatement le bateau de pêche KM Laut Maluku dans les eaux de Mimika à la mi-décembre. Le procureur en chef de Timika, Alex Sumarna, a déclaré jeudi à Timika que l'explosion de KM Laut Maluku se déroulait simultanément en faisant exploser l'un des voleurs de pêche dans la région de Merauke. L'exécution de l'explosion de KM Laut Maluku impliquera la base marine de TNI de Timika et la police du secteur de l'eau de Mimika. KM Laut Maluku a été capturé par l'unité de police de Papouasie quand il volait du poisson dans les eaux de Mimika en 2014. L'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, en collaboration avec l'Agence de la politique budgétaire du ministère des Finances, BKF, a lancé la création d'un forum national de professeurs de recherche. Le forum accueille 218 professeurs de recherche qui sont encore actifs en Indonésie. Le nombre de professeurs de recherche est d'environ 2,27% des 9685 chercheurs nationaux. Le directeur par intérim du LIPI, professeur Bambang Subianto, a déclaré que la création du Forum national de professeurs de recherche visait à maintenir et développer un climat propice au développement des sciences et de la technologie. Cela a été dit par Bambang Subianto quand il a ouvert un séminaire intitulé « Politique nationale de financement de recherche étant implémentative pour atteindre la compétitivité des nations en accord avec Nawacita et la création du Forum national des professeurs de recherche » tenu à Depok mercredi. Le secrétaire de l'Agence de politique fiscale du ministère des Finances, Basuki Purwadi, a dit que la tâche principale de l'Agence de la politique budgétaire du ministère des Finances, ou BKF, est de formuler la politique fiscale et la coopération économique et financière de l'Indonésie. Professeur de recherche est la reconnaissance, la confiance et le respect donnés à la réussite d'un chercheur dans l'exercice de ses fonctions dans la recherche et le développement. Les exportations de l'industrie en cuir, de produits en cuir et des chaussures nationales placent à la cinquième position mondiale et s'efforcent à poursuivre la Chine et le Vietnam qui occupent chacune les premières et troisièmes positions mondiales. Le directeur de l'Agence de recherche et de développement industriel du ministère de l'Industrie, Ngakan Timur, à Jakarta, a expliqué mardi que l'Indonésie était très compétitive et si bien qu'elle devait être maintenue en améliorant la qualité de la conception des matières premières et la durabilité des entreprises. Comme cité par Antara, le secteur national de l'industrie des chaussures possède une part de marché de 4,4% sur le marché international. Il mentionne trois facteurs qui encouragent l'industrie à progresser, à savoir la technologie, le capital et l'expertise. Le gouvernement fournit également des bases connaissances scientifiques de l'industrie aux étudiants qui seront ensuite développés par le monde industriel. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Serviteur, voici donc le commentaire et en pour le titre « La signification de la journée des héros ». Chaque le 10 novembre, la nation indonésienne commémore la journée des héros, une journée importante dans l'histoire de la nation indonésienne. Ceci est particulièrement lié aux efforts pour défendre l'indépendance et montrer à la communauté internationale l'existence de la République d'Indonésie lorsqu'elle a été proclamée le 17 août 1945. Il y a eu une bataille héroïque pour défendre l'indépendance indonésienne contre les attaques étrangères à Surabaya, Java Est. Le 10 novembre 1945, c'est la raison fondamentale pour laquelle la date est fixée comme la journée des héros de la nation indonésienne. Le thème de cette année est « Renforcer l'unité pour bâtir le pays ». Le vice-président du Conseil d'État honoraire et titré Jimli Ashidiki a déclaré que l'esprit d'héroïsme est important pour la nation indonésienne. Il doit être enraciné dans le cœur des générations d'aujourd'hui. Il considère que l'Indonésie construit et jouit de la liberté et de la démocratie. Par conséquent, l'attitude de l'héroïsme qui porte un sentiment d'unité nationale au lieu de l'individualisme devrait être une priorité. Pendant ce temps, la ministre des Affaires sociales, Khofifa Indar Parawansa, veut que la journée des héros soit un élan pour construire l'esprit de patriotisme. Elle exhorte les parents à présenter les héros à leurs enfants. La ministre Khofifa estime qu'en introduisant les luttes des héros, les attitudes patriotiques peuvent être transmises aux enfants ou à toute la jeune génération de l'Indonésie. La même opinion a également été exprimée par Agustin Zil, le secrétaire général de l'Association nationale de la famille des héros d'Indonésie, qui est également président du comité de la commémoration de la journée des héros le 10 novembre 2017, a déclaré que le moment de la journée des héros devait devenir défenseur du peuple de l'Indonésie de maintenir l'unité nationale. Selon lui, la volonté de maintenir fermement la dignité de l'humanité, l'honneur de la famille et la gloire de la nation est très importante. Donc, l'interprétation de la signification de la journée des héros ne doit pas référencer aux forces physiques pour se battre contre l'ennemi. Après la proclamation de l'indépendance le 17 août 1945, la chose la plus importante jusqu'à présent est de savoir comment le peuple indonésien peut apporter une contribution significative à la nation et à l'État. Comme mandaté par les fondateurs de la nation, après l'indépendance, la prochaine étape qui doit être effectuée par la nation indonésienne est de continuer à favoriser l'unité afin qu'elle puisse devenir en paix puissant, souverain, juste et prospère. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Radio République Indonésia, Service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 9 novembre 1953, l'indépendance du Cambodge de la France. La France a mis fin à son occupation au Cambodge qui était en cours depuis 1863 et le Cambodge est devenu un État souverain. Un an plus tard, l'ex-chef de pays Indochine, le roi Norodom Sihanouk, est rentré de son exil en Thaïlande. Sihanouk a formé plus tard un parti politique et organisé des élections. Après avoir remporté l'élection, il a réussi à évincer les communistes et obtenir tous les sièges du gouvernement. Le 9 novembre 1989, le jour où le mur de Berlin est tombé. Le mur de Berlin était le symbole de la guerre froide entre l'édifice de l'Ouest et l'édifice de l'Est après la Seconde Guerre mondiale. La division de Berlin est commencée après la défaite de l'Allemagne des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale en 1945. Le mur de Berlin a été construit le 13 août 1961 pour éviter les habitants ont fui de Berlin-Est à Berlin-Ouest dans la région de l'Allemagne de l'Ouest. Mais à la fin des années 80, la puissance du communisme en Europe de l'Est est tombée comme l'esprit de liberté et les changements dans l'Union soviétique. Et enfin, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin a été détruit par les manifestants comme un symbole de l'effondrement du communisme en Europe. Le 9 novembre 2005, les attentats suicides à la bombe dans trois hôtels à Amman, en Jordanie, ont fait 60 morts et environ 120 blessés. Les attentats ont lieu vers 21h heure locale à l'hôtel Grand Hyatt, Radisson Sas et l'hôtel Day Inn. La plupart des victimes étaient des Jordaniens. Ils ont assisté à un mariage à l'hôtel Radisson. Le réseau Al-Qaïda en Irak, dirigé par Abu Musab al-Zarqawi, via une déclaration sur un site internet, a revendiqué la responsabilité de l'attentat. Lors d'un attentat suicide dans trois hôtels dans la capitale jordanienne, trois citoyens indonésiens sont devenus des victimes. Jérémy, c'était l'histoire jeudi pour ce soir.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN, les produits des micro, petites et moyennes entreprises dans la région de Sumedang doivent être compétitifs ». Pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN, les produits des micro, petites et moyennes entreprises ou MPME dans la région de Sumedang doivent être en mesure de rivaliser avec les produits étrangers. Ceci a été dit par la région de Sumedang, Ingénieur Haji Eka Setiawan, après l'ouverture des activités de développement du réseau et du partenariat de MPME qui ont lieu dans le village de Haur Ngombong, lundi 6 novembre 2017. Selon Eka Setiawan, le nombre de produits de MPME provenant de Sumedang est déjà commercialisé en Indonésie, mais ils doivent être améliorés surtout dans l'emballage afin de concurrencer avec des produits extérieurs. À cette fin, le gouvernement local de Sumedang va essayer d'aider la communauté à améliorer la productivité et la qualité, y compris en contribuant à faciliter le capital sous forme de crédit par une banque avec des versements d'intérêt assez légers. Même techniquement, si le MPME a besoin de capitaux, ils seront accompagnés par des fonctionnaires du ministère des coopératives de l'industrie et du commerce de Sumedang par le programme du gouvernement local tel que Crédit Senyum Manis en collaboration avec la Banque de Sumedang. À travers ce programme, le crédit maximum des MPME est seulement 5 millions de roupiah et augmentera progressivement avec des intérêts de 6% par an. Le réseau Eka Setiawan offre le choix aux MPME. Il y a aussi le programme de crédit des entreprises populaires ou KUR avec 9% d'intérêt par an par l'intermédiaire des banques gouvernementales et privées. Ceci est fait pour améliorer les efforts de MPME, comme par exemple le MPME dans le village de Haur Ngombong est dominé par des produits culinaires tels que le traitement de lignam chilembu, le lait pur, le manioc et d'autres produits raffinés qui jusqu'à présent existent encore et sont encore consommés par le public. Le chef du village de Haur Ngombong, M. Cecep Saifuddin, a déclaré qu'il appréciait le programme du gouvernement local pour augmenter la productivité et la qualité de MPME dans le village de Haur Ngombong pour que l'existence de MPME puisse développer. C'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voici le journal complet. Nur Mas Pripatin, directeur général du contrôle du changement climatique, a affirmé l'intervention de la séance plénière d'ouverture du groupe de travail de la PA ad hoc sur la mise en œuvre de l'accord de Paris lors de la COP 23 à Bonn en Allemagne mercredi À cette occasion, Nourma Sripatin a déclaré que l'Indonésie soutenait la déclaration de la coprésidence pour que la réunion des États membres de la COP23 aboutisse à une décision concrète. Il a déclaré que le processus devrait être inclusif, transparent et la mise en œuvre de l'accord doit être équitable. Selon lui, à cette occasion, les représentants des délégations ont également convenu de l'ordre du jour qui sera fait lors de la session de négociation par le biais d'un groupe informel. Pendant ce temps, les ONG rassemblées à Bonn ont également oublié le président américain Donald Trump qui veut que les États-Unis abandonnent l'accord de Paris. Maintenant, il se concentre sur l'insistance des pays qui veulent s'engager dans la gestion climatique de travailler plus dur et plus ambitieux. Même si Trump a déclaré la sortie de l'accord de Paris, la délégation américaine est restée à la COP23. Ils proviennent des parlements locaux, des villes, des organisations non gouvernementales et de diverses universités. Le militant écologiste Yayat Afianto espère que le gouvernement indonésien pourrait être plus indépendant face à la menace de la dégradation de l'environnement et au changement climatique. Yayat Afianto a demandé au gouvernement de ne plus espérer l'aide internationale, ce qui fait même le peuple indonésien gâté. C'est ce qu'a affirmé Yayat Afianto à la Radio République d'Indonésie à Jakarta mercredi. Bien que l'Indonésie espère encore obtenir une aide extérieure pour résoudre la destruction des forêts en Indonésie, il a suggéré qu'il pourrait être affecté à des activités de renforcement des capacités locales en vue de sensibiliser aux dangers de la dégradation de l'environnement. Plus tôt, en 2016, le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé une subvention de 22 millions de dollars à l'Indonésie pour renforcer la gestion des forêts tropicales et la réduction de la pauvreté parmi les communautés tributaires des forêts afin de réduire les dommages environnementaux. L'Indonésie est en paix avec la troisième plus grande zone de forêt tropicale dans le monde. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, ou KKP, a approuvé la proposition du procureur du district de Timika de faire exploser immédiatement le bateau de pêche KM Laut Maluku dans les eaux de Mimika à la mi-décembre. Le procureur en chef de Timika, Alex Sumarna, a déclaré jeudi à Timika que l'explosion de KM Laut Maluku se déroulait simultanément en faisant exploser l'un des voleurs de pêche dans la région de Merauke. L'exécution de l'explosion de KM Laut Maluku impliquera la base marine de TNI de Timika et la police du secteur de l'eau de Mimika. KM Laut Maluku a été capturé par l'unité de police de Papouasie quand il volait du poisson dans les eaux de Mimika en 2014. L'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, en collaboration avec l'Agence de la politique budgétaire du ministère des Finances, BKF, a lancé la création d'un forum national de professeurs de recherche. Le forum accueille 218 professeurs de recherche qui sont encore actifs en Indonésie. Le nombre de professeurs de recherche est d'environ 2,27% des 9685 chercheurs nationaux. Le directeur par intérim du LIPI, professeur Bambang Subianto, a déclaré que la création du Forum national de professeurs de recherche visait à maintenir et développer un climat propice au développement des sciences et de la technologie. Cela a été dit par Bambang Subianto quand il a ouvert un séminaire intitulé « Politique nationale de financement de recherche étant implémentative pour atteindre la compétitivité des nations en accord avec Nawacita et la création du Forum national des professeurs de recherche » tenu à Depok mercredi. Le secrétaire de l'Agence de politique fiscale du ministère des Finances, Basuki Purwadi, a dit que la tâche principale de l'Agence de la politique budgétaire du ministère des Finances, ou BKF, est de formuler la politique fiscale et la coopération économique et financière de l'Indonésie. Professeur de recherche est la reconnaissance, la confiance et le respect donnés à la réussite d'un chercheur dans l'exercice de ses fonctions dans la recherche et le développement. Les exportations de l'industrie en cuir, de produits en cuir et des chaussures nationales placent à la cinquième position mondiale et s'efforce à poursuivre la Chine et le Vietnam qui occupent chacune les premières et troisièmes positions mondiales. Le directeur de l'Agence de recherche et de développement industriel du ministère de l'Industrie, Ngakan Timur, à Jakarta, a expliqué mardi que l'Indonésie était très compétitive et si bien qu'elle devait être maintenue en améliorant la qualité de la conception des matières premières et la durabilité des entreprises. Comme cité par Antara, le secteur national de l'industrie des chaussures possède une part de marché de 4,4% sur le marché international. Il mentionne trois facteurs qui encouragent l'industrie à progresser, à savoir la technologie, le capital et l'expertise. Le gouvernement fournit également des bases connaissances scientifiques de l'industrie aux étudiants qui seront ensuite développés par le monde industriel. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonjour à tous, retrouvons-nous dans le magazine culturel. Pour aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à Binjai, en province de Sumatra du Nord, pour profiter de la beauté de Kolam Abadi ou l'étang éternel et une cascade de Tongkat ou cascade de bâton. Restez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie. Outre par l'Unkut, vous pouvez écouter nos émissions par www.voi.co.id. Sumatra du Nord possède le lac de Toba et aussi des autres beaux objets touristiques tels que Kolam Abadi ou en français l'état éternel et une cascade de Tongkat ou cascade de bâton, donc la beauté qui vous fera fasciner. La cascade de bâton et l'état éternel sont les deux zones touristiques qui ne peuvent pas être séparées. Son emplacement est situé dans le village de Rumah Galuh, Namukur, sous-district de Seibingai, la région de Langkat. L'étang éternel et la cascade de bâton située à proximité de Medan, la capitale du nord de Sumatra, ou environ d'une heure de route aux 28 km du centre-ville de Binjai. Son emplacement, qui n'est pas si loin de la ville de Medan, est très facile pour les touristes à visiter, parce que le voyage passera la forêt. Il est nécessaire un guide pour se rendre à la cascade de bâton et l'étang éternel. Il y a plusieurs poses où ils pourraient être appelés les étals qui peuvent être un lieu de repos. Ces étals fournissent des collations et des boissons de sorte que vous ne vous inquiétez pas si vous avez faim ou soif. Après avoir arrivé à la cascade de Lobalis, ou mieux connue comme la cascade de Tongkat ou la cascade de bâton, vous saurez pourquoi elle est appelée la cascade de bâton. C'est parce que à cette cascade, il y a un bâton d'un arbre qui est très grand et haut, rassemblé à un bâton géant avec une position comme penchant en arrière sur le débit de la cascade. Selon la communauté locale, le bois penché en arrière sur le débit de la cascade pendant plus de 20 ans. Cette cascade s'écoule le long de la rivière de Seibingai et se jette dans le détroit de Malacca. Après avoir profité de la beauté de la cascade, vous pouvez continuer à parcourir le flux de la rivière vers l'étang éternel. L'étang éternel est célébré pour avoir une clarté exceptionnelle. La piscine a environ 2 ou 3 mètres de profondeur. Néanmoins, vous pouvez profiter de la clarté de l'eau avec la couleur bleuâtre et les belles parois de la rivière. Dans cet état éternel, vous pouvez prendre une douche et vous pouvez également tester votre adrénaline en sautant de la paroi de la rivière qui a une hauteur d'environ 4 mètres. Le bon moment pour visiter l'étang éternel ou la cascade bâton est le matin. Si vous ne voulez pas une ambiance animée, évitez de les visiter le dimanche ou en jour férié parce que ces objets touristiques seront bondés par les touristes nationaux. Et n'oubliez pas d'apporter votre appareil photo pour prendre de belles photos sur les deux objets touristiques. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir, ayant pour titre l'étang éternel et la cascade de bâton. Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant. Merci à tous et au revoir.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, on se trouve encore dans la rubrique « L'Indonésie en couleur ». Dans cette édition, nous vous présentons en sujet la compagnie de train de l'Indonésie, PT KAI, a reçu un prix international à Londres. Une fière nouvelle venant d'une des entreprises publiques d'Indonésie, à savoir la compagnie de train de l'Indonésie, ou PT Kereta Api Indonesia KAI. PT KAI, qui a récemment représenté l'Indonésie, a reçu le prix international de Transformation Achievement de l'association Contact Center World, CCW. Le prix a été remis par Raj Wadwani, en tant que président de la CCW, au président de PT KAI, Edi Sukmoro. Selon Edi Sukmoro, ce prix est une reconnaissance internationale des efforts déployés par KAI au cours des dernières années pour effectuer des transformations exceptionnelles, en particulier l'amélioration des services aux passagers du chemin de fer.
PTKI et d'autres entreprises de services publics de différents pays sont jugées par le jury lors de la conférence Best Practice Conference and Awards Top Ranking Performers du 23 au 27 octobre 2017 à Londres. Dans l'évaluation, chaque entreprise a présenté à sa présentation de transformation publique. La exposition de PTKI a été représentée par la responsable des relations des clients et de la communauté digitale, Ernest-Sylviane Pourba, dont le titre était « 5 Years, Wonderful Journey » a obtenu l'attention de l'appréciation extraordinaire des jurys. L'exposition réalisée était la transformation de l'entreprise menée par PTKI depuis 2009 pour améliorer la qualité et le service à l'utilisateur des services de transport ferroviaire. Il s'agit notamment de la modernisation des systèmes de billets, de l'application KI Access, des installations de rajeunissement, de la réparation des infrastructures et des installations de services dans toutes les gares du contact center 1-2-1, etc. La transformation continue jusqu'au présent pour continuer à innover afin de fournir le meilleur service à la communauté. Avec cette transformation, au cours des 5 dernières années, la croissance du volume des passagers ferroviaires a augmenté de 13,2% en moyenne et la croissance du volume des revenus de 19%. L'objectif de 2017, PTKI devrait transporter jusqu'à 374 millions de passagers. Les pays participants à cet événement comprennent l'Indonésie, les États-Unis, la Turquie, l'Afrique du Sud, le Canada, Hong Kong, l'Arabie Saoudite, l'Inde, la Malaisie et de nombreux autres pays. Les entreprises indonésiennes qui ont participé à cette conférence comprennent PTKI, PT Angkasa Pura II, PT Telkom, Bank Indonesia et Banque Centrale Asia. Avec le plus de 188 000 membres d'entreprises et personnels, l'association récompense chaque année les réalisations de ses membres avec divers prix. La récompensation commence avec la sélection régionale, avec le sommet des prix internationaux qui se déroule en Europe entière. C'était l'Indonésie en couleur, la voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci à tous et à demain.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis du monde entier. Merci d'être fidèles à notre antenne, la Voix d'Indonésie à Jakarta. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des chansons indonésiennes et cette fois, nous avons sélectionné des chansons pop nostalgiques chantées par un chanteur Iwake. Pour ouvrir notre rencontre, voici Iwake avec sa chanson intitulée Libre. Bonne écoute.
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang, memang benar miman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian.
Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang kecil yang berlari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi dom, degedegan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman. Yang berlari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi dom, degedegan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman.
Secrétaire, merci d'être fidèle à notre antenne, la bonne musique à Jakarta. Vous êtes en train d'écouter des chansons pop nostalgiques avec un chanteur, Iwake. Iwake est pionnier de la musique rap en Indonésie. Le rap est une technique vocale de la parole rapide, tandis que la musique rap est une technique de rap accompagnée d'instruments de musique. Le nom complet du chanteur Iwa Kusuma a en fait déjà chanté la musique rap depuis les années 1980. Cependant, finalement, il a réussi à introduire de la musique rap en Indonésie dans les années 1990. Iwake a commencé ses débuts dans l'industrie musicale indonésienne en sortant son premier album intitulé « Je veux revenir » publié en 1993. L'album contenant 10 chansons a également été publié à l'étranger, à savoir le Japon. L'album intitulé « Je veux revenir » a été créé à partir de l'intervention d'Iwake avec la maison de disques qui a embrasé. À cette époque, l'album était bien reçu sur le marché et a popularisé Iwake, qui était encore relativement nouveau. Pas satisfait, en 1994, Iwake republié son travail dans l'album intitulé Mask. Comme l'album précédent, cet album est également sorti au Japon. L'un des chansons principales de cet album est la chanson intitulée Libre que vous avez écoutée. La chanson créée par Iwake donne un esprit pour tout le monde et nous rappelle de ne pas penser à un problème prolongé. Bon, serviteur, écoutons donc la chanson suivante d'Iwake intitulée Nombok Dong. Bonne écoute.
Lompat, lompat sepanjang hari. kau melesat. Masukkan bola sekarang ke dalam keranjang. Kom kiri kom kiri kiri kom kom kom.
Serritok, setelah sangsong di Wake, ang titule Nombok Dong, kie tang kluz dang son album, ang titule Kram Otak, publia ang 1996. Se sangsong et kekono she les amateurs aux années 1990, kom limne de basketball ang Indonesia. Bon, Serritok, avant de terminer notre programme, voici donc les deux derniers sangsong ang titule La Belle Nuit et Masque. Bonne écoute et à très bientôt!
Yang menyinari di setiap kehidupan kota dan warna-warna terlihat di jalan sana menerangi setiap sudut-sudut di kota. Orang-orang banyak yang berlalu lalang untuk mendapatkan atau mencari uang hiburan, dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menikmati malam yang begitu menantang. Otak pusing, janganlah kau rasakan. Badan tegap, mari kita hilangkan. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat siapa saja tak akan bisa diam di rumah. Nonton TV atau nonton apa saja sama teman atau sama elak-elaknya. Ku tak peduli dan memikirkannya, lebih baik ku juga menikmatinya. Karena sangat tepat untuk keluar dari rumah dan pergi mengikuti kaki ini melangkah. Melangkah terus entah kemana.
Aku jajah jalan demi jalan untuk merasakan hangatnya hingga ku terduduk.
Karena semua orang sedang bergembira dan ku tak tahan cuma melihat saja.
Satu-satu mereka bertemu lalu mereka pergi dan berlalu.
Hah? Ke disco? Karena malam ini malam yang indah, bersama teman-temanku, ku bercanda dan tertawa bebas lepas.
Malam ini indah, penuh dengan warna, selalu menghiasi sudut kota. Malam ini indah, penuh dengan cahaya, yang selalu menerangi sudut kota.
Meriah di mana-mana karena semua orang sedang bergembira merayakan apapun untuk mengisi malam indah ini. Musik-musik mulai berisik mengisik-kusik mengajak kita untuk segera bergoyang.
Asik 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 LCD kaset dan TV
yang selalu menemani kita sedih pun mengeluarkan keajaiban. Membuat semua orang jadi senang dan takkan dia mengganggu orang yang tenang agar semuanya jadi tertawa riang. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat orang sedih jadi bergairah.
Malam ini indah, dengan warna yang selalu menghiasi sudut kota. Malam ini indah, dengan cahaya yang selalu menerangi sudut kota. Malam ini indah, dengan warna yang selalu menghiasi sudut kota. Malam ini indah.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio Republik Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Merci de fidèle à la voix de l'Indonésie à Jakarta. C'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.